New York, États-Unis, Consulat général de Russie, 12 septembre 2001. Le ministre russe retint un bâillement. Il était près de midi. Les locaux du Consulat général de Russie étaient situés sur la 91e rue, à deux pas de la partie nord de Central Park. Plusieurs larges fenêtres s'ouvraient sur un ciel bleu limpide. En ce début de septembre, il faisait encore chaud. Une première réunion de quelques personnes venait de débuter, ayant pour objet de définir l'attitude à prendre envers les autorités des États-Unis. Le plénipotentiaire du gouvernement russe se tourna vers son ambassadeur, une main sur la bouche. L'ennui se voyait dans son regard alors qu'il retenait un nouveau bâillement.
« Andrei, avez-vous des nouvelles du bureau de Karpatchok ?»«
Non, aucune, monsieur le ministre. Je sais que notre consul général s'est déplacé sur les lieux hier, dans l'après-midi, et de nouveau ce matin. Il m'a rapporté que, en lieu et place des deux tours, il n'y a qu'un immense éboulis de pierre et de tôle froissée, tout juste haut de quelques étages. Il ne reste plus rien des édifices, sinon les grilles monumentales qui formaient l'ossature de l'entrée. À mon sens, il n'y a pas de survivants de cette catastrophe. Le bureau de Karpatchok était au 60e étage, donc pris en sandwich entre les paliers inférieurs et supérieurs. En d'autres mots, ce sont 40 étages qui lui sont tombés dessus.
Vous avez interrogé les autorités quant aux chances de survie ?
Oui, bien sûr. J'ai moi-même contacté les ministères concernés. Quant au consul général, il est en contact permanent avec les autorités. Mais pour le moment, il est bien trop tôt pour avoir des informations sérieuses ou précises. En outre, nous devons observer une certaine prudence dans nos demandes de renseignements. Officiellement, il n'existe aucun lien entre le bureau de Karpatchok et nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prévenir les autorités que des citoyens russes en visite ce matin-là, et je précise bien en visite, sont peut-être restés bloqués dans l'une des deux tours.
Ouais, je suis d'accord avec vous. Mais Katia Ulyanov et Elena Michlalovsky, elles étaient toutes deux en dehors du système de Karpatchok, non ?
En dehors, oui, mais pas vraiment. Katia Ulyanov était une spécialiste de la fusion nucléaire. Bien que militaire et directement sous les ordres de Moscou, elle se rapportait à Karpatchok. Le seul problème qui pourrait surgir, ce serait qu'on retrouve un document compromettant et que l'affaire nous revienne en boomerang, ce qui m'étonnerait beaucoup. Les deux tours sont réduites à l'état de poussière et de gravats. Il s'arrêta quelques secondes, l'air pensif, puis balayant l'air d'un geste de la main qui voulait signifier le peu d'importance qu'il accordait à la présence de la seconde personne, il poursuivit. Quant à Elena Michajlovski, elle travaillait effectivement plus ou moins sous les ordres de Karpatchok. Elle avait été embauchée par ses soins en Russie lorsqu'elle y était retournée enterrer sa mère, sa dernière parente. Cela s'est fait par hasard. C'était une jolie fille, au look aguichant, qui ne manquait pas de cran ni de personnalité. Mais elle me paraissait trop vive pour endosser les habits trop serrés pour elle d'une préposée aux renseignements de second ordre. En plus, elle avait une personnalité ambiguë. Elle affectait une certaine froideur et même une indépendance gênante.
Mais elle était américaine. Et son séjour aux États-Unis était légal, non ?
Non, elle n'était pas encore naturalisée. Mais elle savait manœuvrer, et elle s'était procuré la carte verte qui lui permettait de travailler dans ce pays. Elle avait été embauchée par un bureau privé qui œuvrait pour le compte de la CIA, d'où l'intérêt que lui avait porté Karpatchok. Mais c'était un adepte des formules abruptes de Moujik, nourri des anciennes certitudes pro-KGB.
Mais quelle importance !
Mais Lena Michajlovski n'était pas une fille docile. Cela crispait Karpatchok. Lorsqu'elle a émis le désir d'être déchargée de ses fonctions, il l'a très mal pris. D'autorité, il a décrété qu'elle en savait trop et qu'elle pouvait se retourner contre nous. C'était quand même exagéré. Lena a toujours été honnête et elle a fait sa demande dans les règles. Karpatchok s'est montré agressif. J'ai même dû le rappeler à l'ordre, l'avertir que les anciennes méthodes expéditives des Soviétiques ne sont pas concevables dans ce pays, encore moins dans notre ambassade qui, en aucun cas, ne l'aurait couvert en cas de pépin. Le ministre s'étira, les mains derrière le dos. Il avait mal dormi, affecté par le décalage horaire. Les yeux au plafond, il soupira.
Ouais. En conclusion, on peut dire que j'ai joué de malchance en planifiant mon voyage aux mêmes dates que celles choisies par ces imbéciles d'islamistes pour planter leur zinc dans les tours.
Il soupira à nouveau en reprenant sa position dans le fauteuil. Le ton posé, l'air détaché, il ajouta.
Donc, Andrei, si je comprends bien, il n'y a plus rien à faire, sinon attendre.
Vous avez raison, monsieur le ministre, répondit le diplomate en hochant la tête. Le haut gradé marqua une pause, puis, à voix basse, il ajouta en conclusion.
À la limite, on s'en fout. Ce n'est plus notre problème. Ils sont tous morts et quoi qu'il arrive, on ne les connaît pas.
D'un geste du plat des deux mains, il mettait un terme à la discussion.
Dostachna, on clôt le chapitre. Andrei, vous passerez la consigne à tous ceux qui étaient au courant de l'existence du bureau de Karpatchok et de son effectif. Plus un mot sur cette affaire. Nous n'en avons jamais entendu parler.
Je comprends. Ce sera fait dès aujourd'hui, monsieur le ministre.